L'Éden de Satan 27. La justice et l'injustice 7e partie. Vous savez ce qui retient. Dimanche 9 janvier 2022. Pasteur Brian Kozurek. Ce matin, nous allons continuer avec notre mini-série sur la justice et l'injustice et aller dans 2 Thessaloniciens 2 et lire à partir du verset 3 pour notre texte. Nous allons étudier en profondeur ce matin ce que l'apôtre Paul avait dit dans 2 Thessaloniciens 2, concernant les derniers jours, dans cette deuxième épître aux Thessaloniciens, les avertissant au sujet de ce qui doit arriver dans ces derniers jours sur la terre. 2 Thessaloniciens 2, 1 pour ce qui concerne la parousie de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne n'aimez pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens un temps de grande hésitation et des pensées troublées, et de n'aimez pas vous laisser troubler des fortes et bruyantes protestations, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Ainsi, nous voyons que le temps de la parousie de Christ a commencé en 1933 et se termine quand Christ prend son épouse, lors de l'enlèvement de l'Église, lequel sera un temps de trouble et de stress. Esther, le temps pendant lequel il Esther dit que les hommes auront l'esprit troublé, aussi des temps troublés avec de grandes protestations et des chaos, au temps de la parousie de Jésus-Christ. Ainsi, ce sera un temps de grands conflits et de guerres. Et vous pourriez vous demander pourquoi? Parce que nous découvrirons que quand Dieu descend, avec un cri et révèle la grande présence de la parousie, que Satan vient aussi avec sa parousie, pour se révéler. Ainsi, la guerre qui avait commencé au ciel, comme nous le voyons dans Apocalypse 12, descend sur la terre en ce temps aussi, et vous avez au même moment de parousie. Premièrement, nous voyons la parousie de Christ, où il descend avec un cri, qui Esther un message, et ensuite nous verrons la parousie de Satan, dans lequel il vient dans une bataille désespérée dans les pensées des hommes. Et nous nous trouvons juste en pleine bataille pour la survie de la lignée de Dieu. Apocalypse 12, 7 et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. 8 000 Néhémie furent pas les plus forts. Et leur place Néhémie fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Frère Branham nous a enseigné que Michaël était Christ, dans sa prédication, le commencement et la fin de la dispensation des gens 9 janvier 1955 SP, 36 et en ce temps-là, Michaël se lèvera, le grand prince. Michaël était Christ, certainement, qui a combattu la guerre des anges au ciel avec le diable. Satan et Michaël ont combattu ensemble, ou plutôt ont combattu l'un contre l'autre. Question et réponse COD 28 juin 1959 SP, 44. Maintenant, je dois poser un fondement pour en arriver à ceci, que Lucifer essaya de s'élever au ciel et même d'être un peu supérieur à son patron. Il a trahi Michaël, et a fondé lui-même un grand royaume au nord et Esther descendue. Ainsi, lui et ses anges furent chassés. La personne qui a posé la question sur l'Apocalypse, c'est Esther dans Apocalypse 12. C'était sur l'île de Patmos. Mais remarquez maintenant ceci au verset 12. Et observez comment il s'Esther établit dans le royaume des hommes. 76 Combien ici savent que le diable contrôle chaque nation sous les cieux? Le diable contrôle les États-Unis. Le diable gouverne les États-Unis. Le diable gouverne l'Allemagne. Il gouverne chaque nation sous les cieux. Le diable contrôle chaque nation. La Bible le dit. Lisez Matthieu chapitre 4. Là où Satan a amené Jésus jusqu'au sommet de la montagne, et lui a montré les royaumes du monde, et a déclaré qu'ils lui appartenaient, et il a dit, « Je te les donnerai si tu m'adores. » Jésus n'a jamais dit, « Tu as menti, Satan. » Il savait qu'ils lui appartenaient. Mais là dans le livre de l'Apocalypse, il est dit, « Cieux et terre, réjouissez-vous. Car les royaumes du monde sont remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera sur terre. » 77 Jésus savait que dans le millénium, tous les gouvernements et les royaumes seront démolis, et qu'il sera Dieu et chef de tout ceci. Il savait qu'il héritera de tout cela. C'est-à-dire pourquoi il a dit à Satan, « Arrière de moi, Satan !» Car il savait ce qu'il devait faire. 10 Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. 11 Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. 12 Esther, pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux? Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. 13 Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme, l'église, qui avait enfanté l'enfant mâle. Non. L'apôtre Paul continue en disant. 3 Que personne n'ait mis vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'homme du péché, cet homme d'incrédulité, car le péché est l'incrédulité. Nous sommes enseignés ainsi par le prophète David dans Psaume 78, 32. Malgré tout cela, ils continuèrent à pécher, et Néhémie crurent point à ses prodiges. Remarquez que David dit que leur péché était leur incrédulité. Et Jésus en citant David dit dans Jean 16, 9. En ce qui concerne le péché, parce qu'il n'y croit pas en moi, ainsi, comme William Branham nous a enseigné le péché, c'est l'incrédulité. Et cet homme du péché, cet homme d'incrédulité être révélé, apocalypto, ôter la couverture, révélé ou divulgué. Ainsi nous voyons qu'il sera exposé ici. Ainsi, nous voyons qu'il n'y a pas que Christ, qui doit être révélé, apocalypto, à sa parousie, et nous savons comment Christ est révélé, comme frère Branham nous a enseigné dans sa prédication. Christ est révélé dans sa propre parole. Ainsi, il y a aussi un mystère ici que le fils de la perdition doit aussi avoir une parousie. Et il doit être connu, non pas comme fils de l'homme, mais comme fils de la destruction. C'est ce que la perdition signifie. Et il sera aussi révélé lors de sa propre parousie, ce qu'il est réellement, et cet homme est appelé le fils de la perdition. Maintenant, dans notre série sur la foi, nous avons prêché deux prédications sur la parousie de Christ, et avons montré qu'il y avait 23 fois dans le Nouveau Testament, où Jésus, Paul, Pierre, Jacques et Jean, ont tous parlé de la parousie de Christ, et dans ces 23 versets, nous avons identifié 84 signes et événements qui étaient associés à la parousie de Christ. Mais ici, nous voyons qu'il n'y a qu'une référence scripturaire à la parousie de Satan et nous savons par cette référence que cela doit arriver, quelque part pendant la parousie de Christ. Mais là où ces 84 signes et événements accompagnent la parousie de Christ, il n'y en a que 2, qui accompagnent la parousie de Satan. Et nous le verrons dans les attributs, le concernant. Il est appelé le fils de la perdition, qui est ster traduit du mot grec apolia qui signifie destruction, mort, et des voies pernicieuses, des voies destructives, et que cet homme du péché soit révélé. Révélé. Révélé comme qui? Il nous dit, le fils de la perdition. Maintenant, ce mot perdition selon le lexique grec taillé, ester défini comme apolia, ce qui signifie, un détruisant, ou destruction totale des vases. Je pense que cela se marie avec ce qui se passe aujourd'hui, quant à cette poussée de changer l'ADN de chaque personne. Et la deuxième définition, ester de, un périssement, une ruine, une dévaluation de la monnaie. Ainsi, la parousie de Satan, c'est ester lors de la destruction, et il ester ici pas de faire deux choses, détruire les vases des hommes, et de détruire le système monétaire de l'homme. Et nous pouvons voir cela s'accomplir à travers toutes les nouvelles que nous recevons au quotidien. Ainsi, nous voyons l'apôtre Paul nous avertir à travers le Saint-Esprit que cette puissance démoniaque, Satan, avec la face d'un homme, le faux prophète et l'antichrist, viendra avec sa propre parousie et sa présence sera une puissance démoniaque destructive manifestée, apolia, avec la face d'un homme. Et Néhémie viendra pas seulement pour détruire les vases humains, faisant d'eux des transhumains par le changement de leur ADN, ce qui ester exactement ce qu'il fit en Éden, quand il a utilisé la bête pour engrosser Ève et accoucher Cain, qui était un transhumain. Et un transhumain ester un homme hybride. Si nous devons comprendre ce qui se passe aujourd'hui, nous avons besoin de comprendre le langage du mouvement de Satan. Quelqu'un doit comprendre où les globalistes se dirigent, pour comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font aujourd'hui. Et Néhémie cherche pas plus que ce que la bête fit Ève, et ainsi, à toute la race humaine par un acte au jardin d'Éden. Wikipédia définit le transhumanisme comme un mouvement philosophique et intellectuel qui prône l'amélioration de la condition humaine en développant et en rendant largement disponibles des technologies sophistiquées capables d'améliorer considérablement la longévité, l'humeur et les capacités cognitives, et prédit l'émergence de telles technologies du futur. Les penseurs transhumanistes étudient les avantages et les dangers potentiels des technologies émergentes qui pourraient surmonter les limites humaines fondamentales ainsi que l'éthique, 3, de l'utilisation de ces technologies. Certains transhumanistes croient que les êtres humains pourraient éventuellement être capables de se transformer en êtres dotés de capacités tellement élargies par rapport à la condition actuelle qu'ils méritent l'étiquette d'être post-humains. Nous sommes avertis de cela par l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 11, 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. 14. Et cela n'est-ce pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 15. Il n'est-ce donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Ainsi, cette notion de la transformation humaine de la race tire son origine de Satan. Ce mot apoléia qui parle de la destruction du vase signifie aussi destructeur de la monnaie. Ainsi nous voyons comme l'une des caractéristiques identifiables de sa parousie. Nous n'aimons le verrons pas seulement par l'homme, devenant hybride et nous savons que cela arrive à travers la modification de l'ADN humain, à travers les avancées technologiques. Mais une autre caractéristique identifiable ester, qu'il détruira aussi le système monétaire. Maintenant, quand l'apôtre Paul a parlé de l'homme du péché incrédulité, qui doit être révélé, ou manifesté, le fils de la perdition, c'ester exactement ce que le mot perdition, apoléia signifie, et c'ester exactement ce que nous voyons, être manifesté à travers le monde juste maintenant, comme nous sommes au milieu de ce qu'ils appellent la grande réinitialisation. Et cette réinitialisation sera la destruction du vase humain, l'ADN humain, et aussi la destruction de la monnaie fiduciaire, comme nous l'avons déjà mentionné. Pourtant, Dieu a sa grande réinitialisation aussi, laquelle sera l'annihilation du système du monde, et l'introduction dans le millénium. Et comme Satan souhaite améliorer, ce qui signifie détruire l'ADN des hommes pour faire son offre, Dieu a promis d'améliorer l'ADN de l'homme à une condition glorifiée, qui n'est mis périra jamais. J'espère que vous pouvez voir ce qui se passe. C'est-à-dire que les deux royaumes sont en guerre, le royaume de Dieu et de son Christ, et le royaume de Satan. Mais nous qui croyons à la parole de Dieu, savons que Dieu l'emportera. Mais pour protéger notre ADN, il doit nous faire quitter ce monde pendant une période de temps, pendant qu'il nettoie complètement le monde avec du feu. À la fin, Dieu enlèvera ceux qui ont son esprit, et glorifiera nos corps, au point que nous, Néhémie, connaîtrons plus aucune souffrance et maladie encore, et nous Néhémie vieillirons jamais. Mais Satan se moque du plan de Dieu, en essayant de faire par la science ce que Dieu fera par sa parole parlée. Maintenant, en revenant à l'apôtre Paul, il continue en disant: l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, et souvenez-vous, Dieu est la parole. Jean 1, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ainsi, cette puissance démoniaque s'opposera et s'élèvera au-dessus de la parole de Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, l'objet d'adoration, se proclamant lui-même Dieu. Ainsi, je veux que vous remarquiez qu'il s'assiera dans le temple de celui qui doit être adoré, se montrant lui-même comme étant Dieu, se montrant lui-même comme celui qui est adoré. Maintenant, souvenez-vous, ce mot adoré vient de deux mots. Le premier mot, digne, signifiant la valeur de, et le suffixe ship qui signifie l'état ou la condition d'être. Verset 5. Néhémie, vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin que Néhémie paraisse qu'en son temps. Maintenant, c'est là où je voulais arriver ce matin, afin que nous puissions comprendre les prochaines choses que l'apôtre Paul nous dit ici. Remarquez ces mots. Et maintenant vous savez ce qui le retient, et nous voyons que c'est une personne, et c'est lui qui retient, ce n'est pas Dieu, qui fait la rétention. Car ce mot retenu, est utilisé dans les Écritures, des hommes qui tiennent ou retiennent, ainsi répriment la vérité. Ainsi, nous voyons la parousie de celui qui retient, ou réprime la vérité. C'est-à-dire aussi une caractéristique identifiable de sa parousie, c'est-à-dire que la vérité sera retenue ou réprimée. Pour chaque arme que le diable a à sa disposition, Dieu a aussi plus à sa disposition. Ainsi, nous voyons dans l'Éden de Satan, l'affectation de sa parousie, c'est-à-dire qu'il est occupé à retenir la vérité à beaucoup si possible, et nous voyons cela aussi dans les politiques à venir des anges déchus de la lumière, ces ministres qui contrôlent chaque gouvernement dans le monde. Mais nous voyons aussi qu'au même moment, Dieu aussi a sa parousie, à laquelle il associe beaucoup de caractéristiques identifiables, comme un cri, une voix et une trompette. Et Dieu a dit dans 2 Thessaloniciens 2 qu'il a autorisé à Satan de retenir, pour une période de temps, pendant laquelle Dieu Néhémie fait rien pour arrêter le plan de Satan pour son Éden. Examinons plus loin dans cette écriture, ce que Dieu fait pendant que Satan dans son Éden, retient ou tient la vérité captive, puis ensuite apporte ses plans destructifs pour la destruction du corps et de la devise. Voyons ce que Satan fait et pourquoi Dieu n'entre pas en scène pour l'arrêter. Et nous verrons que la raison pour laquelle Dieu le laisse faire, c'est pour exposer exactement qui est Satan, et quels sont ses plans. Dieu laisse Satan manifester son plan de l'Éden dans le but d'exposer sa nature destructive. Ainsi, Nous voyons dans les prochains versets que Dieu le laisse retenir. 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui, Dieu, qui le retient encore ait disparu. 8. Et alors paraîtra l'impie, ce transgresseur, ceux qui sont allés au-delà des limites de la loi, les hors la loi, ceux qui sont sans loi. Remarquez que 2 Thessaloniciens parle de deux parousies et pourtant, à moins que nous n'ayons mis, sachions ce qui sont censés s'accomplir pendant chacune d'elles, nous n'aurions aucune idée que les événements en cours sont un résultat des caractéristiques identifiables associées aux deux parousies. Maintenant, revenons à notre série sur la foi, numéro 38 et 39. Nous vous avons montré que les 84 signes et événements qui identifient la parousie de Dieu ici sur terre dans ces derniers jours. Mais nous n'ayons vous avons pas montré les caractéristiques identifiables de la parousie de Satan au temps de son Éden du temps de la fin. Mais remarquez l'apôtre Paul, nous dit au verset 8 et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, sa parole qui Esther proclamait de sa bouche, comme une épée à double tranchant, et qui l'anéantira par l'éclat de sa parousie, présence. Ainsi, la parousie de Satan sera détruite par la parousie de Christ, par ses 84 signes et événements qui accompagnent la parousie de Dieu. Comme Paul continue au verset 9, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Ainsi, nous voyons encore que la parousie de Satan, Esther manifestée dans l'installation de son Éden, et son agenda Esther exposé devant tous Esther, détruit par la parousie de la parole de Dieu. Ainsi, la plus grande bataille jamais livrée, Esther dans la pensée de l'homme, mais Dieu jusqu'ici le laissera faire et alors Dieu empêchera Satan d'accomplir son Éden. 10 Et avec toutes les séductions de l'iniquité, montrant que l'injustice ou la mauvaise compréhension est trompeuse, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. 11 Aussi, le fait qu'ils n'aient mis, soit pas arrivé à recevoir l'amour pour la vérité, nous découvrons que Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge. Maintenant, remarquez qu'en rejetant la vérité de Dieu, ils reçoivent l'illusion, et l'illusion Esther définie comme étant, une croyance qui n'Esther pas vraie, une idée fausse. Une fausse idée ou croyance causée par une maladie mentale. Ainsi nous pouvons voir à la fin des temps, la folie qui en fait, rend l'illusion réelle pour les gens. Une fausse croyance psychotique persistante concernant le soi ou des personnes ou des objets en dehors de soi, qui Esther maintenue en dépit de preuves irréfutables du contraire. Ainsi, nous voyons qu'il y a soit un amour réel pour la vérité en vous, ou il vous sera envoyé une puissance d'égarement, afin que vous croyiez au mensonge. Lequel mensonge? Esther le même auquel Ève crut. Et ensuite, il nous Esther dit au verset 12, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ainsi, l'apôtre Paul nous informe ici de ce qui arrive, au moment où Satan établit son Éden, et comment Dieu l'assiste en faisant retourner ceux qui n'aiment pas la vérité, ainsi, les retournant à une puissance d'égarement, afin de croire au même mensonge qu'Ève crut. Et qu'était ce mensonge? Injectez cela dans votre corps et vous n'en mourrez pas. Maintenant, frère Branham est-elle cela de manière claire? Quand est ce qui doit arriver en ce moment? Ce à quoi l'apôtre Paul se réfère dans 2 Thessaloniciens dans sa prédication, le 1er saut 18 mars 1963 42. Dans le message de frère Branham sur le 1er saut 18 mars 1963 42, lisons donc un passage de l'Écriture. Esther, ce que tous vous aimez, notez quelques références bibliques. Prenons 2 Thessaloniciens un instant, et on va considérer cela juste un instant. Sester, Sester, tellement beau comme tableau. J'aime cela. Et voyons voir. Oui. De Thessaloniciens. Et je veux prendre le chapitre 2 de 2 Thessaloniciens. Le 7e verset. Voyons voir. 2 Thessaloniciens 2.7. Il me semble bien que c'est clair ça. Quand je l'ai noté, je frémissais et je tremblais. Le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient s'en aille. Et ensuite, frère Branham dit, 85 qui? Celui qui retient. Voyez? Vous voyez? Un mystère. Le mystère de l'iniquité, il y a très longtemps, au tout premier âge de l'Église. C'est Paul qui écrit ici et qui dit que le mystère de l'iniquité. L'iniquité? C'est quoi? L'iniquité? C'est quelque chose que vous savez, que vous n'avez mis devriez pas faire, mais vous le faites quand même. Et Paul a dit que, sur la terre aujourd'hui, il y a de ces ouvriers d'iniquité. Le premier saut 18 mars 1963 43. Le verset 3. Que personne n'ait mis vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme à chaud et même eux du péché, le fils de la perdition, Cestersa, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, pardonnant les péchés. Néhémie, vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j'étais encore chez vous? 86 J'aurais aimé être assis là, à écouter quelques-uns de ces enseignements. Pas vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il soit révélé en son propre temps. Très bien. Ainsi ce mot, retient ou tenir la vérité, le mot grec, Esther, le même mot utilisé par Paul dans Romains 1, 18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent, katecho, injustement la vérité captive. Ce mot tenir a été traduit du mot grec katecho et composé de deux mots, kat qui signifie retenir ou tenir, et le mot grec écho. Ainsi, il signifie bloquer l'écho de la vérité de Dieu, comme nous le voyons dans 1 Jean 5. 1 Jean 5, 10 Celui qui croit au Fils de Dieu fait l'écho de ce témoignage en lui-même. Celui qui n'est aimé croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il n'est aimé croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. 11 Et voici ce témoignage. C'est-à-dire que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. 12 Celui qui fait l'écho du Fils fait l'écho de la vie. Celui qui n'est mis fait pas l'écho du Fils de Dieu, n'est mis fait pas l'écho de la vie. 13 Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 14 Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 15 Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Et nous voyons que Jésus a parlé de cet esprit, comme étant des hypocrites de son jour, aussi bien quand il dit dans Matthieu 23, 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, acteurs. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Et Paul dit que celui qui retient sera révélé en son temps. Ainsi, celui-ci aura un apocalypsis, lequel est une révélation ou un temps de la manifestation ou du dévoilement de lui-même. Et nous découvrons que c'est le plus religieux, ceux qui sont les ministres de la lumière, comme Paul a appelé les ouvriers de Satan. 2 Corinthiens 11, 13 Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. 14 Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 15. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Ces ouvriers d'iniquité sont des vrais ministres de Satan dont Jésus nous parle. Là où les deux esprits seront si proches, qu'ils séduiraient les élus, si cela était possible. Remarquez, la parousie de Dieu accomplit une chose, pendant que la parousie de Satan fait complètement le contraire. Dieu descend avec un cri et Satan utilise ses faux ministres de lumière pour bloquer le cri, et ainsi, il retient pendant que Dieu le laisse faire. Ainsi, nous voyons que celui qui laisse faire est Dieu qui laisse faire, le fera ainsi, jusqu'à ce qu'il quitte du milieu de l'humanité dans un enlèvement, où il prend les élus. Mais nous voyons que c'est Satan qui retient. Remarquez au verset 6, « Et maintenant vous savez ce qu'il retient, afin que Néhémie paraisse qu'en son temps. Et comme j'ai pointé Satan, qui avec ses ministres de lumière, retiennent la vérité. Mais remarquez au verset 7 car le mystère de l'iniquité agit déjà, ainsi, le mystère de l'iniquité, cette retenue et répression de, la vérité, est-ce déjà à l'œuvre au jour de Paul, et le long, à travers les sept âges en montant, jusqu'à la fin. Mais ensuite nous lisons au verset il faut seulement que celui, Dieu, qui le retient encore ait disparu. Ainsi, Satan à travers ses ministres sont autorisés par Dieu à retenir la vérité, et ce, jusqu'à la fin des temps, quand Dieu descend dans sa parousie avec un cri, une voix et une trompette. Et Paul dit, Dieu le laissera faire, jusqu'à la véritable fin. Si c'est maintenant vous savez ce qui le retient, afin que Néhémie paraisse qu'en son temps. Ainsi, sa retenue révèle qu'il a Esther et l'esprit qu'il a. 7b il faut seulement que celui, Dieu, qui le retient encore ait disparu. Pendant lequel moment, Dieu nous enlève. Et alors en ce moment-là, Paul dit 8 et alors, quand Dieu quitte la terre avec ses élus, en ce moment-là, paraîtra totalement dévoilé et démasqué ouvertement manifesté l'impie, ce transgresseur, ceux qui sont allés au-delà des limites de la loi, les hors la loi, ceux qui sont sans loi, en ce moment-là seront que le Seigneur, le seul véritable Seigneur, Jésus détruira par le souffle de sa bouche, laquelle estère la vie de sa parole. En d'autres termes, sa parole qui provient de sa bouche, comme une épée à double tranchant, et qu'il anéantira par l'éclat de sa, Christ, la parole révélée, parousie, présence. 9. La parousie, présence, de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. En d'autres termes, les élus de Dieu sont pris, comme la dernière chose que Dieu fait, pour détruire les œuvres de Satan, parce qu'il n'est mis peut plus avoir accès aux élus, ils sont hors de sa portée. Parce que, souvenez-vous, Jésus nous a avertis dans Matthieu 10, 28. Néhémie craignez pas ceux qui tuent le corps et qui Néhémie peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Dans le dernier combat de Satan au sommet de son Éden, il est intervenu détruire le corps et le système monétaire. Il a poursuivi à la fois le corps et l'âme des élus avec une guerre bactériologique sous la forme d'une inoculation qui non seulement détruit le corps, en amenant le corps à produire des protéines qui ont des clous comme des barbes à l'extérieur, déchirant les organes du corps et coupant les parois des organes, provoquant une myocardite qui est une inflammation du tissu cardiaque, mais aussi la péricardite qui détruit le sac qui tapisse le cœur. Il cause également des dommages aux cellules endothéliales, qui sont la doublure autour des vaisseaux sanguins. Il a aussi été constaté qu'il cause des dommages à la muqueuse autour d'autres organes du corps, comme les reins, le foie et le cerveau. sieste est donc une bonne illustration de ce qui peut détruire le corps, mais il modifie également le code ADN et transforme l'homme naturel en un transhumain, un hybride, détruisant ainsi l'âme également. Cela a été proposé par BGADARPA et à d'autres militaires dans une vidéo de 2005, qui montre que leur but est de détruire l'interaction entre la personne et Dieu. Ils coupent la partie M2 du cerveau, qui est la partie qui répond à la communication spirituelle entre Dieu et l'homme. Le but de la guerre bactériologique était d'éliminer le zèle du fondamentaliste pour Dieu et les choses de Dieu. C'était pour apaiser les réactions de la personne à la direction du Saint-Esprit. Le chercheur en chef de Moderna, qui fait de cela la guerre bactériologique, déclara que « ce n'est pas un VHSIN, c'est un système d'exploitation humain 2.0 ». Ainsi, Jésus a dit « Néhémie craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais Néhémie sont pas capables de tuer l'âme ». Mais craignez plutôt celui qui est capable de détruire à la fois l'âme et le corps en enfer. Maintenant, de Thessaloniciens 2, 10 et avec toutes les séductions de l'iniquité, remarquez la séduction due à la mauvaise compréhension, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. 11 aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge. 12 afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Il parle de ceux qui prennent plaisir à une mauvaise compréhension. Maintenant, allons dans Matthieu 13, 41-43. Le Fils de l'homme enverra ses anges, ses messagers, ces véritables ministres, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. 42 et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. 43 alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. Le NIF le traduit comme suit. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils désherberont de son royaume tous ceux qui causent le péché, incrédulité, et tous ceux qui font le mal acquis. Pendant des siècles, le but du véritable quintuple ministère était d'éliminer les malfaiteurs parmi les justes. Mais en cette heure de l'Odyssée, si vous prêchez l'enfer et le prêchez avec chaleur, les gens deviennent mal acquis à l'aise et Néhémie veulent que des choses que leurs oreilles ont la démangeaison d'entendre. Combien bas les chairs sont-elles tombées? Maintenant, j'aime la manière le message Bible traduit ce que Jésus dit ici. 41 Le Fils de l'homme enverra ses anges pour éliminer les chardons de son royaume, les jeter à la poubelle et en finir avec eux. 42 Ils vont se plaindre au ciel, mais personne n'y va les écouter. 43 En même temps, des vies mûres et saintes mûriront et honoreront le royaume de leur Père. Esther, ce que tu écoutes ça? Vraiment à l'écoute? Et la Voice Translation le traduit comme suit. 41 Le Fils de l'homme enverra ses messagers dans le monde, et ils extirperont de son royaume tout ce qui est venimeux, laid et malveillant, et tout ce qui fait le mal acquis. 42 Ils jetteront toute cette méchanceté dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et grincements de dents. 43 Et les justes brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Si vous pouvez vous rappeler que c'est exactement ce que les élus feront, selon Malachie 3, 16 alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre, l'Éternel fut attentif, et il écouta, ce qui saura faire l'écho du cri qu'il descend avec. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Et ceux qui pratiquent l'iniquité, qu'ils connaissent, n'aimés le pratiqueront pas, ou ceux qui commettent l'iniquité qu'ils savent faire et qu'ils n'aimés feront pas, ou qu'ils n'aimés savent pas faire mais qu'ils font en tout cas. Ce sont des gens religieux, comme Jésus nous le montre dans les Écritures suivantes. Luc 13, 27 et il répondra, Je vous le dis. Je n'ai mis c'est d'où vous êtes. Retirez-vous de moi. Vous tous. Ouvriers d'iniquité. 28 Sestérola qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes, dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Matthieu 7, 18 Un bon arbre et souvenez-vous de Psaume 1. Montre ce qu'un juste signifie pour un arbre. Ainsi il parle ici. D'un homme bon, Néhémie peut porter de mauvais fruits. Faux enseignement pour la saison, ni un mauvais arbre, un homme corrompu, porter de bons fruits, un bon enseignement pour la saison. 19 Tout arbre, homme, qui n'est mis porte pas de bons fruits, enseignement, Esther coupée et jetée au feu. 20 Esther donc à leurs fruits, enseignement, que vous les reconnaîtrez. 21 Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, voyez, ils ont deux seigneurs là. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est Esther dans les cieux. 22 Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, voyez, voici vos deux seigneurs. Les gars, n'avons-nous pas prophétisé, prêché, par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? 23 Alors je leur dirai ouvertement, je n'ai mis vous ai jamais connu, Ginosko. Je n'ai mis vous ai jamais connu par expérience. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, vous qui pratiquez ce que vous connaissez être faux. Maintenant, mettez-le en contraste avec le groupe de Malachie 3, dont nous avons parlé dans la justice et l'injustice, première partie et deuxième partie. Ce groupe pour lequel Dieu a fait pour eux un livre des souvenirs. Pourquoi ? Parce qu'ils sont ceux qui discernent la justice de la méchanceté. Dans Hébreux 1, 9, l'apôtre Paul dit, « Tu as aimé la justice, et tu as haï l'iniquité, Esther pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. » Remarquez que vous devez aimer la justice, mais aussi haïr l'iniquité. Ainsi, que Dieu oigne nos yeux avec le collier du Saint-Esprit, Apocalypse 3 et Matthieu 25. Les sages ayant l'onction sur leurs yeux, ainsi, elles pouvaient voir. Mais Jésus nous fait savoir que ceux qui sont justes, apparaîtront à plusieurs. Matthieu 23, 28 Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais, au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Ainsi, l'apparence de ceux-ci, comme étant juste, n'est mis l'Esther que devant les hommes, et non pas pour les élus, qui connaissent la différence entre la justice et l'injustice. Maintenant, rentrons dans 2 Thessaloniciens 2. Frère Branham dit quant à Esther ce que ceci arrivera. Pas en ce temps-là, voyez. Il n'est mis pas le pas du jour de Paul, pas en ce temps-là, mais en son temps. Voyez, à l'ouverture de ce sceau, nous savons exactement ce que c'était. Frère Branham continue. Qui est-ce cet homme d'iniquité? Qui est-ce cet homme de péché? Ce gars qui pratique l'iniquité, serait révélé en son temps? Le premier sceau 18 mars 1963 44. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, des séducteurs. Vous voyez? Qui séduisent les gens et les égarent. Vous voyez? Il faut, seulement que celui, Dieu, qui le retient. S'en aille, l'Église. Christ. L'épouse. Soit enlevé de la scène. Et alors sera révélé l'impie. 88 À l'ouverture du sceau, en son temps. Paul a dit, pas de mon temps, mais au temps où il sera révélé. Voyez, que le Seigneur Jésus consumera par le souffle de sa bouche. 89 Nous y arriverons dans quelques instants. Le souffle de sa bouche. Suivez bien ce que c'est Esther, et qu'il anéantira par l'éclat de sa venue. ce mot venu. Esther, le mot grec parousia. Et il parle de l'apparition de Christ avant la venue de Christ. Comme frère Branham nous l'a déclaré. Lui, dont la venue, parousia, se fera par la puissance de Satan. Ainsi, nous voyons à la fois que Christ lui-même a une parousie en 7 heures aussi bien que Satan. 7. 7. C'est-à-dire à dire un homme. L'œuvre de cet impie se fera par la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, voyez, et avec toutes les séductions de l'iniquité, séduisant les gens par l'iniquité, pour ceux qui périssent n'ont pas cette épouse. Pour ceux qui recherchent de telles choses, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Et Christ Esther la vérité, et Christ Esther la parole. Mais eux, ils aiment mieux avoir un credo pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient à un mensonge. 92 Ça devrait être traduit là comme je l'ai vérifié dans le lexique. Par le mensonge. Pas un mensonge. Le mensonge. Le même qu'il a raconté à Ève. Afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Maintenant, nous savons que le mensonge avait été dit à Ève. Satan utilisant le serpent lui a dit, certainement, tu ne mourras pas. En d'autres termes, si tu prends ce médicament que je vais te donner, tu ne mourras certainement pas. Ainsi, le serpent a inséminé Ève de ses gènes, lesquels gènes ont altéré ses gènes, pour produire une vie hybride en Caïn. Et elle a enfanté une race hybride des gens, la semence serpent ou la semence du serpent. Et c'est exactement ce que le système de la bête essaie d'accomplir aujourd'hui. Injecter dans les personnes de la génétique qui altère leurs gènes humains et produit des transhumains, lesquels sont des créatures qui n'aiment sont plus purement humains mais en qui il a été implanté un système d'exploitation humain 2.0. Et c'était ouvertement déclaré par le scientifique en chef du principal producteur de cette guerre bactériologique. Ce sont exactement ces mots. Oh là là! Si tu pouvais juste demander que Dieu ouvre tes yeux pour voir et comprendre que nous vivons à l'époque biblique. Dans une présentation en 2017, le docteur Talzac, le médecin-chef de Moderna Inc., ce dernier explique clairement en langage profane ce que la technologie de thérapie génique fait dans les injections. Dr. Zach a déclaré clairement qu'il pirate le logiciel de la vie en injectant leur propre code génétique aux humains. Il l'a appelé système d'exploitation humain 2.0. Et qu'est-ce ce que le système de la bête? C'est-ce l'esprit de l'Antichrist? Le premier saut 18 mars 1963-45. Quelle déclaration. Oh là là. Après que l'épouse a été enlevée, alors cet homme du péché va se révéler. 94 Elle, la vraie épouse de Christ, a été élue et tirée de chaque âge de l'Église. 95 Maintenant, l'autre jour j'ai déclaré que l'épouse pourrait rentrer à la maison sans qu'on n'en sache rien du tout. C'est-à-dire vrai. 96 Quelqu'un a dit, mais, frère Branham, ce serait un tout petit groupe. 97 Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé, maintenant, allez donc lui en parler, à lui, vous voyez, où 8 personnes furent sauvées à travers l'eau, arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Le premier saut 18 mars 1963-46, si 800 personnes allaient dans l'enlèvement ce soir, vous n'entendriez pas un mot là-dessus, ni demain, ni le jour suivant, ni jamais. Il partirait, et vous n'en sauriez rien. Voyez-vous, ce serait exactement pareil. 98 Kester, ce que j'essaie de dire, je n'essaie pas de vous faire peur, de vous inquiéter. Je veux que vous soyez vigilants. Tenez-vous prêt. Veillez à chaque minute. Mettez fin à vos sottises. Passez aux choses sérieuses avec Dieu, parce qu'il est terre plus tard que vous n'aimez le penser. Le premier saut 18 mars 1963 47. Maintenant, souvenez-vous, la vraie épouse. 99 Eh bien, il y a une fausse épouse. On la trouve dans Apocalypse 17. Elle disait, je suis veuve, et je n'ai besoin de rien. Vous voyez, elle est terre assise sur cette bête écarlate, et ainsi de suite, ou plutôt la bête. Sans bon, mais là, vraie épouse serait formée de milliers de gens, et ce sera composé des élus tirés de chaque âge de l'Église. Chaque fois qu'un message a été proclamé, et que les gens l'ont cru et accepté dans toute sa lumière, alors ils étaient scellés et mis à part jusqu'à ce jour de la rédemption. 101 Jésus n'enseigne-t-il pas la même chose? Quand il a dit que la leçon a retenti à la septième veille? Ça, c'est le dernier âge de l'Église. Voyez. Et il a dit, voici l'époux. Allez à sa rencontre. 102 Et puis les vierges endormies Esther venue. Esther frottait les yeux et a dit, je pense qu'il me faudra avoir de cette huile. Moi aussi. Peut-être que nous ferions donc mieux d'en avoir. 103 Et la véritable et authentique épouse se tenait là. Et a dit, nous en avons juste assez pour nous-mêmes. Oui. Nous en avons juste assez pour entrer nous-mêmes. Nous, n'y pouvons pas vous en donner. Si vous en voulez, allez vous mettre en prière. De nouveau au paragraphe 48. 104 Et, pendant qu'elle était partie, l'époux Esther arrivait, vous voyez? Et l'épouse Esther rentrée. Et alors le reste? Là, celle qui était absolument vertueuse, l'Église a été laissée dehors. Et il a dit, il y aura des pleurs, des gémissements et des grincements de dents. 105 Voyez-vous, pour cela, ce sont les élus. Et, quand le cri a retenti, voici l'époux. Alors tous ceux qui s'étaient endormis, tout au long des âges, se sont réveillés, tous. 49 Voyez-vous, ce n'est-ce pas, comme on pourrait le penser, Dieu, qui part en quête de quelques milliers de gens de cet âge si seulement, pour les enlever. Il s'agit des élus même de chaque âge. Et c'est pour cette raison que Christ doit rester là sur le trône de médiation, en tant qu'intercesseur, jusqu'à ce que cette dernière personne entre, au dernier âge. Et, à ce moment-là, les révélations de ce qu'il en était sont dévoilées aux gens, et ils voient ce qui est arrivé. Voyez, saisissez-vous cela maintenant? 50 Très bien. 106 Remarquez, les autres morts, les membres d'église, Néhémie revinrent point à la vie jusqu'à ce que 1000 ans soient accomplis. Les membres d'église, les chrétiens, l'église, ils Néhémie sont pas revenus à la vie avant la fin des 1000 ans. Et ensuite, ils sont sortis, pour se tenir en présence de l'épouse. Esther vrai, pour se tenir en présence du roi et de la reine. Gloire. Certaines églises aujourd'hui se disent la reine du ciel. La reine du ciel, c'est Esther l'épouse choisie de Christ, et elle vient avec lui. Daniel a vu cela, et il a dit, des myriades le servaient. Eh bien, si vous observez l'écriture, là, dans Daniel, les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. 51 Maintenant, rappelez-vous, quand il est revenu avec son épouse. La femme sert son mari. Et des myriades de milliers le servaient. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Il ne s'agit pas du tout de l'épouse. Elle est déjà montée. Elle est revenue et elle se tient là pour juger ces générations qui ont refusé le message de l'évangile. 108 Jésus n'a-t-il pas dit que la reine du Midi se lèverait avec cette génération en son temps? Pour le jugement? Et qu'elle condamnera cette génération? Car elle vint des extrémités du monde pour entendre la sagesse de Salomon? Et il y a ici plus que Salomon? C'est elle le jugement? La reine de Séba? Du Midi? Elle était là? Au jugement? Avec son propre témoignage. 109 Pas même un juif Néhémie s'est relevé avec cette génération de juifs. Ils étaient aveugles, et Néhémie l'ont pas reconnu. En effet, ils le cherchaient. Mais il est revenu d'une façon tellement simple, qu'ils sont passés complètement par-dessus cela. Comme cela. 110 Et voilà que cette grande reine, elle s'est humiliée. Elle est revenue et elle a accepté le message. Et elle se tiendra là, au jugement, a-t-il dit, et condamnera cette génération-là. 53 Maintenant, vous voyez les trois catégories? Toujours. Le livre, les morts ont été jugés d'après celui-là. Un autre livre, le livre de vie, ceux dont le nom était dans le livre de vie. 112 Vous direz, si on a son nom dans le livre de vie, alors tout va bien. N'est-ce pas? Non? Non. 113 Écoutez. Judas Iscariot. Son nom était dans le livre de vie. Osez donc dire que c'est faux. Jésus, dans Matthieu 10, leur a donné le pouvoir de chasser les démons, et il les a envoyés guérir les malades, purifier les lépreux et ressusciter les morts. Ils sont partis et ils sont revenus, et Judas était bien là avec eux. Ils ont chassé des démons et ils ont fait toutes sortes de miracles. Et ils sont revenus en disant, « Même les démons nous sont soumis. » 114 Jésus a dit, « Néhémie, vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. » Et Judas était avec eux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand le moment est venu pour le groupe des élus de monter là à la Pentecôte, pour vraiment recevoir le Saint-Esprit, Judas s'est montré sous son vrai jour. Il sera là au jugement. 115 Alors, les livres ont été ouverts, et un livre, celui de la vie, a été ouvert, et chaque homme a été jugé d'après le livre. Or l'épouse se tient là avec Christ, pour juger le monde. 54 N'est-ce pas que le Paul dit, quelqu'un de vous. Il parle à l'épouse. Lorsqu'il a un problème ou un différend avec un autre, oserait-il plaider devant les injustes? Néhémie, savez-vous pas que les saints jugeront la terre? Voyez? Voilà. Les saints vont juger la terre et en prendre le contrôle. C'est vrai. Sans cesse vous dites, comment donc un petit groupe comme celui-là? Je n'ai sais pas comment cela va se faire. Mais il a dit que cela va se faire. Alors, pour autant que je sache, ça règle la question. 117 Maintenant, écoutez. 55 Maintenant, remarquez. Les autres morts, les membres d'église, morts, Néhémie revinrent point à la vie avant 1000 ans. Ensuite, au bout de 1000 ans, ils furent rassemblés, il y eut une autre résurrection, qui est la deuxième résurrection, et ils furent rassemblés. Et Christ et l'Église, l'épouse, pas l'Église, l'épouse, Christ et la reine, pas l'Église, Église, Christ et l'épouse se tenaient là. 118 Et eux, ils ont été séparés, comme on sépare les brebis d'avec les boucs. C'est vrai. C'est là que les membres d'église comparaissent. Et s'ils ont entendu la vérité et qu'ils aient rejeté la vérité, alors qu'est ce qu'il y aura à dire? Quand toute la chose sera exposée sur le canevas, que même vos propres pensées seront ce que vous en pensiez? Comment allez-vous y échapper? Alors que ce sera là sur le canevas des cieux, et la grande télévision de Dieu, là-bas, il y aura là vos propres pensées rebelles. 56 Vos propres pensées témoigneront contre vous en cette heure-là. 119 Alors, si vous dites une chose, et que vous en pensiez une autre, vous feriez mieux d'arrêter ça. Centrez vos pensées sur Dieu. Gardez-les pures, et Néhémie bougeait pas de là, dites toujours la même chose. Voyez, Néhémie dit pas, eh bien, je vais dire que j'y crois. Mais je vais aller vérifier. Croyez-le. Amen. 56 en 20e remarquez, cette catégorie-là, la raison pour laquelle il meurt, qu'il passe par la purification de l'épreuve de la tribulation, c'est-à-dire parce qu'en fait, ils Néhémie sont pas sous le sang. Ils prétendent l'être, mais Néhémie le sont pas. Pourquoi donc aurait-il à passer par une épreuve? Pour les purifier. Alors que le décolorant, le sang de Jésus-Christ enlève de vous tout symptôme de péché, et de tout le reste. Et vous êtes déjà mort, et votre vie est cachée en lui, par Dieu, et scellé à l'intérieur par le Saint-Esprit. Pourquoi serez-vous jugé? Où allez-vous obtenir votre purification? De quoi auriez-vous besoin pour être purifié? Alors que vous êtes parfaitement sans péché en Christ? Comment? Pourquoi le jugement? Mais c'est ce groupe des endormis que les gens n'arrivent pas à distinguer. 57 121e or. Pendant des années ils n'y sont pas arrivés. Vous voyez? Mais c'est maintenant l'heure de la révélation. Voyez-vous? Où s'est révélé? Juste au moment de la venue de l'épouse. Le dénouement final, où les dernières choses arrivent. Les choses arrivent à leur terme, mon ami, je le crois. Quand? Je n'ai mis ses pas. Je n'ai mis saurait vous le dire, mais tout ce que je veux vivre ce soir de telle façon que, si c'est à ce soir, je serai prêt. Voyez, il peut venir ce soir toutefois, et il peut Néhémie parvenir d'ici 20 ans. Je Néhémie sais pas quand il viendra. Mais quel que soit le moment, ma vie pourrait se terminer ce soir, alors, tout ce que j'aurais fait ici, se sera terminé à cette heure-là. Je devrais le rencontrer au jugement dans l'état où j'étais quand je suis parti d'ici. L'arbre tombe du côté où il penche. 58 122 Souvenez-vous, quand elles sont allées acheter de l'huile, elles, oh, me direz-vous, eh bien attendez un instant, frère Branham. Ça, je n'en suis pas sûr. Quand elles sont allées acheter de l'huile, quand elles sont revenues, l'épouse était déjà partie, et la porte était fermée. Et elle frappait, en disant, ouvrez-nous. Ouvrez-nous. Mais elles sont restées dans les ténèbres du dehors. 123 Maintenant, si vous voulez un type de cela, écoutez donc, du temps de Noé. Jésus a fait allusion. Or, du temps de Noé, ils sont entrés dans l'arche. Mais ils ont été transportés au-dessus d'eux. Pendant le temps du jugement. Seulement, ce n'était pas là le type de l'épouse du Christ. 124 Esther Enoch qui était le type de l'épouse. Enoch. Noé Esther passé par l'épouse. Il Esther passé par la période de la tribulation. Il a souffert. Il Esther devenu ivrogne. Et il Esther mort. Mais Enoch a marché devant Dieu pendant 500 ans. Et il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu et qu'il avait la foi de l'enlèvement, et il s'estère simplement mis à marcher. Il s'estère élevé dans les cieux et il estère rentré à la maison, sans même goûter à la mort, il n'estère pas du tout mort. 59 S'estère là un type de nous les vivants, qui sommes restés, Nous n'aimons et devancerons pas. Ou n'aimons et ferons pas obstacle aux gens comme nous. Qui dorment. Qui se sont endormis à cause de l'âge humain. De l'état amené par l'âge humain. Ils sont décédés il y a bien longtemps. Mais les ennemis sont pas morts. Ils dorment. Amen. Ils sont endormis. Pas morts. Et tout ce qu'il faut, c'est que les poules les réveillent. Et nous les vivants, qui sommes restés, nous n'aimons ferons pas obstacle à ceux qui se sont déjà endormis. Car la trompette de Dieu sonnera, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants, qui sommes restés, alors nous serons tous ensemble enlevés avec eux, et nous rencontrerons le Seigneur dans les airs. 126 Et les autres morts n'aimis revinrent point à la vie avant 1000 ans. Voilà. Ils ont passé par la période de la tribulation. 127 Qu'est-ce ce que c'était? Comme Enoch. 60 Vous savez, Noé observait Enoch. En effet, quand Enoch a disparu, il a su que le jugement était proche. Alors, il restait près de l'arche. 128 Mais Noé n'était pas monté. Il a seulement été soulevé un petit peu, et il a vogué au-dessus des tribulations. Il a été transporté à travers la période de la tribulation, pour passer par la mort. Voyez? Mais, Noé a été transporté à travers. 129 Enoch, lui, a été enlevé, sans passer par la mort, un type de l'Église qui est à enlever avec ceux qui dorment, pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et le reste de l'Église est transporté à travers la période de la tribulation. Moi, je n'ai ému peut pas le comprendre autrement. Enoch fut enlevé, sans passer par la mort. Prions.